confirmation minimale que le locuteur contrôle doit contrôler, contrôle par le bref contact visuel. La confirmation minimale signale qu'on a été compris et qu'on peut continuer. Un signe de tête, un sourire, un un oui sont des confirmations minimales. Si elles ne viennent pas, la locutrice ou le locuteur se met à répéter ses idées, à prolonger les pauses, elle ou il hésite et finit par se taire. Mais ces confirmations minimales peuvent, donc il les faut pour la conduite, pour la discussion, mais ces confirmations minimales peuvent aussi se muer au moyen de domination par excellence, du moins quand elles sont perverties consciemment ou non. Dans les couples mixtes, les hommes donnent de nombreuses confirmations minimales aux femmes, mais souvent trop tard. Ils ne contribuent donc pas à soutenir le sujet. Ce retard signale leur manque d'intérêt et d'attention. Après ces confirmations minimales décalées, les femmes insèrent des pauses d'une longueur excessive et terminent de moins en moins leurs phrases. En retardant plusieurs fois, de suite, leur confirmation minimale, les hommes peuvent obtenir que les femmes renoncent à leur sujet et s'arrêtent de parler. Les hommes signalent aussi leur manque d'intérêt en accordant des confirmations minimales que sur demande. Enfin, ils y recourent à un moment où ils devraient en réalité fournir une contribution qui fasse avancer la discussion. Restons un instant avec les pauses. Toute société a un système subtil de pauses acceptables et acceptées dans une conversation quotidienne. Cela est vrai pour les pauses internes d'un propos, comme pour celles qui se produisent au changement de locuteur. Si on laisse s'allonger les pauses, on passe facilement pour lourd ou pour peu intelligent. Des pauses trop longues peuvent aussi signaler un statut inférieur. Si en revanche, on parle sans pause, on passe pour ne pas savoir tenir ses distances. Si on parle sans pause et en précipitant les syllabes, on risque d'être jugé peu ordré et peu digne de confiance. Un dépassement de la longueur de la pause acceptée provoque le plus souvent un malaise chez les deux interlocuteurs. Pour donner une image positive de soi, il convient en effet d'enchaîner sans dépasser la longueur acceptable de la pause. Les pauses prolongées des femmes, après une confirmation minimale retardée, font que la femme a besoin d'une concentration supérieure. Il faut qu'elle se concentre sur les contenus et en même temps surmonter le désagrément de sentir qu'on lui témoigne si peu de respect. Ce conflit émotionnel touche le sentiment de sa valeur. En général, on ne parle pas, on ne peut pas parler de ces conflits parce qu'ils ne se déroulent pas au niveau conscient. En prolongeant ses pauses, la femme signale que son sujet n'a pas d'intérêt, pas plus finalement qu'elle-même, et que l'homme peut donc continuer à agir comme il le fait. Ce sont ces mécanismes de la communication qui se révèlent maintenant être un cas éclatant de transfert. L'homme affirme son manque d'intérêt, la femme doit accepter cette discrimination, accepter qu'elle n'est pas intéressante. Pour qu'un sujet proposé s'impose, il faut la collaboration de tous les partenaires. Dans la pratique, les femmes introduisent beaucoup plus de sujets. Elles y sont obligées parce que nombre des sujets proposés par elles ne sont pas acceptés. On ne peut pas expliquer l'échec des sujets proposés par les femmes par leur contenu. De ce point de vue, il ne se distingue souvent aucune façon des sujets proposés par les hommes. L'échec s'explique fréquemment par l'abstention des hommes face à l'obligation de collaborer à l'échange. On peut observer dans les couples de discussion que les hommes ignorent les tendances thématiques des femmes. Et, je cite, partent toujours de leur propre position thématique, par exemple en prenant au pied de la lettre telle formule où le sens implicite est important, ou en s'accrochant à une partie d'une intervention qui a été désignée comme secondaire. Fin de la citation. Sous une forme simplifiée, cela revient à dire que dans une discussion, l'effort des femmes consiste à proposer de nombreux sujets, à se laisser interrompre, à renoncer à leur sujet, à soutenir encore les sujets masculins, et pour cela, poser environ 3 fois plus de questions que les hommes. Tout cela fait que les hommes parlent beaucoup plus que les femmes. Parler beaucoup, c'est exercer beaucoup d'influence. C'est imposer et développer des sujets. C'est donc diriger tout le cheminement de l'entretien. Si ce rôle actif revient toujours au même groupe, l'autre finit par voir le monde comme il lui est présenté. D'où ce commentaire laconique, je cite, « Être ignoré, ça arrive aux femmes, pas aux hommes. » L'influence que les différentes personnes peuvent exercer sur le déroulement d'un entretien et sur ses résultats est prédéterminée en partie par la position dans l'échelle, mais en partie l'influence se précise au cours de l'entretien. On agrandit son influence si on prend souvent la parole. On agrandit encore son influence si on ne s'adresse pas à une personne particulière, mais au groupe entier. Les deux moyens engagent beaucoup de personnes à répondre au premier locuteur. Entre parenthèses, Bates a montré que ce sont vraiment ces deux moyens, ce sont les moyens classiques pour gagner de l'influence dans un groupe. Ferme. Mais on était en train de voir comment on gagne ou bien comment on perd de l'influence dans un groupe. On le perd en tout cas si on est femme. Donc, le sexe joue un rôle décisif. Voyons cela. Les recherches sur l'attitude communicative dans les groupes mixtes ont montré que les hommes s'adressent en effet beaucoup plus souvent que les femmes au groupe entier. Mais de plus, les autres participants, femmes et hommes, s'adressent peu aux femmes, mais beaucoup plus souvent aux hommes, peu importe que ceux-ci parlent beaucoup ou parlent peu. À cela s'ajoute que les hommes ont tendance à formuler leur contribution d'une manière plus générale que les femmes. Une affirmation générale, normalement, appelle plus de prise de position. C'est comme ça. Nous sommes en train de cerner comment l'influence se fait dans un groupe. On a vu qu'en règle générale, celui qui parle beaucoup gagne beaucoup d'influence. Le nombre des interventions faites détermine le rang communicatif des partenaires. C'est une manière de mesurer l'influence dans les groupes. Le premier rang est donc réservé à la personne qui parle le plus souvent, et ainsi de suite. C'est maintenant que le sexe intervient. Car même si hommes et femmes occupent le même rang, ce sont les hommes qui ont les rôles influents. Comment ça se fait? Tout simplement, on néglige les femmes. On néglige les femmes qui occupent un rang élevé, qui parlent donc souvent. On ne leur adresse pas la parole. Mais on adresse la parole de préférence aux hommes de rang inférieur. Donc, le mécanisme communicatif joue ainsi. On s'adresse peu aux femmes qui interviennent beaucoup, systématiquement moins que leur rang ne le voudrait. C'est par ce mécanisme que les interventions et les propositions des femmes sont si souvent pas prises en considération. Par contre, les hommes qui parlent peu sont aussi bien systématiquement, interpellés souvent. On doit remarquer ici que les femmes de rang inférieur ne font pas preuve de solidarité à l'égard des femmes de rang supérieur. Les femmes de rang inférieur, donc qui parlent moins, s'adaptent plutôt aux hommes de rang supérieur, ce qui fait qu'elles sont le plus souvent peu remarquées. Quelle influence le rang communicatif exerce-t-il sur les solutions ou les décisions que le groupe recherche? C'est ici que les effets durables et inconscients de la socialisation des petits-enfants sur la perception des adultes apparaissent de la manière la plus éclatante. Car, même s'il n'y a aucune différence décelable dans la connaissance concernant le domaine discuté, et même si les solutions proposées par les femmes ne sont pas moins bonnes que celles proposées par les hommes, la prépondérance de l'influence des hommes sur les résultats est remarquable. Femmes et hommes ont appris à penser que les femmes sont inefficaces. Pour vérifier cette hypothèse, on a invité les membres des groupes qui ont été observés pour les questions de l'influence, là, à évaluer eux-mêmes leur position dans le groupe et l'écho qu'ils trouvent leurs interventions. Les résultats sont étonnants. Les deux sexes ont l'impression que les hommes parlent sensiblement plus que les femmes. La fréquence avec laquelle les hommes interviennent est surestimée, beaucoup plus souvent dans un tiers des cas que ce n'est que chez les femmes, dans 7% des cas. Donc, ce sont les contributions masculines qui ont été retenues, qui sont entrées dans la conscience des autres. La fréquence des interventions féminines, en revanche, est largement sous-estimée. Donc, nombre des interventions des femmes n'ont pas été écoutez. De même, les interventions des hommes sont jugées nettement meilleures que celles des femmes. Autre résultat qui donne à réfléchir. Sur tous ces points, femmes et hommes sont régulièrement d'accord. Dans tous les groupes observés, les propositions des femmes n'ont même pas réussi à atteindre le score le plus bas réalisés par les hommes. Bon, maintenant je suis perdue. Bon, allez, un instant. Première règle de la bonne conférencière. De l'ordre dans les papiers. Bon, oui, ça y est, ça continue. Ses préférences interviennent-elles dans le choix des collaborateurs ou des collaboratrices? C'est là un des points où la manière d'aboutir à une solution montre tout son poids social. Si, comme nous l'avons vu, les hommes se jugent compétents quand ils communiquent d'égal à égal, cela ne surprendra personne qu'ils préfèrent collaborer entre eux. Si, dans la même situation d'égalité, les femmes sont jugées moins compétentes, il est naturel qu'on n'incline pas tellement à les choisir comme collaboratrices ou pour collègues à un même niveau sur l'échelle, dans l'échelle. C'est exactement le résultat auquel la recherche a abouti, je cite. De plus, les femmes sont nettement moins populaires auprès des hommes que les hommes auprès des femmes. Fin de la citation. Quoi d'étonnant alors que, lorsque les hommes siègent dans une commission de nomination, ils choisissent des hommes pour occuper des postes libres. Et comme les femmes aussi préfèrent des collaborateurs masculins, il n'est pas étonnant non plus qu'elles aussi choisissent des hommes. Ces résultats sont éclairants. Ils ont été confirmés par quantité d'autres recherches. On en a tiré la conclusion que les femmes sont toujours dévaluées et que les différences dans le style communicatif des sexes sont provoquées par ces différences préalables dans l'évaluation. Je cite, en d'autres termes, même quand femmes et hommes se comportent de la même manière dans les entretiens qui les réunissent, les deux sexes sont perçus comme s'ils se conduisaient de manière différente, tout simplement parce que ce sont des femmes et des hommes. Fin de la citation. La langue et le style vocal ont des effets. L'échange verbal est le lieu où les structures de notre société se dévoilent sans cesse. Elle est notre réalité, une réalité que nous connaissons depuis notre enfance et qui nous est constamment démontrée dans la vie de tous les jours. À l'école, dans la famille d'abord et ensuite à l'école, dans la formation professionnelle, dans notre métier, dans les médias. Les femmes, malgré leur éloquence précoce et la qualité de leur formation, n'y occupent pas encore leur place d'égal à égal. La communication, elles en sont évacuées.
C'est avec beaucoup d'intérêt et d'attention que nous vous avons écouté et je n'aurais pas besoin de formules limitatives pour vous remercier de cet exposé, de l'éclairage nouveau, en tout cas pour moi, d'une question sérieuse que vous avez traitée avec efficacité. Avant que nous en arrivions aux questions, j'aimerais vous signaler ce petit papillon que vous trouverez à la sortie qui vous permettra d'être informé de la sortie du livre que nous publierons à l'automne et qui contiendra les textes de ce cours. J'aimerais également vous rappeler que mercredi prochain, nous aurons une table ronde sur le thème « L'université est aussi l'affaire des femmes ». Cette table ronde sera animée par Mme Sylvia Ricci-Lempen. Y participeront, et par ordre alphabétique, Monsieur Alexandre Bergman, professeur à l'école DHEC, Madame Martine Chaponnière, docteur sciences de l'éducation de l'Université de Genève, Madame Yvette Yagui, conseillère aux États et syndic de Lausanne, Madame Claire Rubatel-Masnata, privadocent à la faculté des SSP, ainsi que Madame Brigitte Studer, historienne. Donc je vous donne rendez-vous à toutes et à tous mercredi prochain et nous allons avoir petite pause de 2 minutes avant les questions.